RMC 01 TV, François Sorel, de quoi je me mail.
Un grand bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Bonnes vacances à vous toutes et à vous tous qui en profitez. Peut-être regardez-vous et écoutez-vous de quoi je me mail à la plage, à la montagne, en faisant du sport. Vous avez bien raison, bienvenue donc à toutes et à tous. Au menu de ce de quoi je me mail, et bien tout à l'heure on s'intéressera au smartphone du moment avec Monsieur Smartphone à 01net, c'est Nicolas Lelouch qui viendra nous donner son classement des meilleurs smartphones du moment. Alors, Apple, Huawei, Samsung, Oppo, ce nouvel arrivant, on fera le point tout à l'heure, vous aurez le top 10 de Nicolas, ça sera dans une vingtaine de minutes. Et puis je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir à tous les sujets qu'on évoque avec le hashtag DQJMM sur Twitter, et puis bien sûr la page Facebook qui vous tend les bras pour bien partager votre passion sur les nouvelles technos, réagir à l'actualité, donc n'hésitez pas. Merci d'être là, et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et un bon de quoi je me mêle ne serait pas un bon de quoi je me mêle sans un bon club de la presse IT. Ça tombe bien, on a les meilleurs. Jean-Sébastien Zanqui est là. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour François, bonjour à tous.
Journaliste à 01net.com qui n'est pas encore en vacances. Tout comme Emmanuel Paquette qui est toujours là, qui fait de la résistance. Bonjour Emmanuel.
Bonjour François.
Journaliste à l'Express. Et en revanche, l'actu, elle, n'est pas en vacances les amis. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets. On va parler de Huawei, on va parler d'Android 11. On en sait un petit peu plus concernant son lancement. Samsung qui devrait sortir aussi un nouveau Galaxy Note là dans les semaines qui viennent, et puis de Huawei qui est dans la tourmente encore une fois, cette fois-ci côté réseau finalement, la spirale infernale se poursuit pour Huawei. Mais pour débuter l'actu de la semaine, on ne peut pas y échapper, c'est une actu télécom et c'est Free qui a dégainé sa Freebox Pop.
C'est ça, Jean-Sébastien. Tout à fait. C'est donc la Freebox V8 hein, qui est baptisée Freebox Pop par Free. Alors contrairement à la Delta qui était sortie il y a 18 mois, elle donne un petit peu l'impression de revenir aux sources de ce que sait faire Free, avec on va dire un produit très complet pour un prix assez raisonnable. Alors parmi les fonctionnalités importantes, on peut noter la compatibilité par exemple avec le réseau fibre 5 gigabits par seconde, ou encore la compatibilité du lecteur vidéo avec la 4K HDR. Et puis, alors, il y a des petites déceptions aussi avec cette absence de Wi-Fi 6 qui a fait couler beaucoup d'encre là chez les geeks cette semaine.
Il est un peu énervé,
pourquoi
Xavier.
Pourquoi le Wi-Fi 5 oui, c'est ça. Pourquoi le Wi-Fi 5 au lieu du Wi-Fi 6? C'est un petit peu dommage. Mais pour pallier cette absence, Free propose un système assez malin de répéteur qui est inclus avec la Freebox et qu'on peut disposer voilà, dans sa maison pour étendre son réseau Wi-Fi dans son domicile.
Et le répéteur est fourni avec la
voilà.
Avec toute l'installation. C'est même pas une option.
Non,
il est vraiment, j'allais dire, donné, fourni en tout cas.
Oui, il y en a un qui est fourni. On peut en acheter plusieurs. Si on a une grande maison. Alors effectivement, elle est accessible donc dès maintenant aux nouveaux clients, avec en plus, ce qui est intéressant, une offre 4G, de forfait 4G, qui est accessible illimité, qui est accessible à 10 € pour ses nouveaux abonnés, tandis que l'abonnement voilà, de la Freebox Pop coûte 40 € par mois et 30 € la première année pour les nouveaux abonnés. Donc, voilà, c'était assez convaincant, je trouvais, cette semaine, ce lancement par Xavier Niel. Et la Freebox, qui revient au basique.
Oui, qui revient au basique, on va dire. C'est un peu, Jean-Sébastien a tout à fait raison. Après la Freebox Delta, qui était un peu, on avait l'impression, un délire de geek, beaucoup trop onéreux, etc. On voit que Xavier Niel, finalement, s'est peut-être pris une claque avec le demi-échec ou le semi-succès de la Freebox Delta. Il revient à quelque chose de plus homogène et de plus réaliste, non, Emmanuel?
Alors moi, je pense que t'as raison. Pour moi, c'est évidemment une claque sur la Freebox Delta, parce qu'on n'a jamais vu, enfin à ma connaissance, Free lancer une nouvelle box 18 mois après une nouvelle génération, rectifier aussi vite le tir, avec en plus de nous, jamais de chiffres donnés sur les ventes de la Freebox Delta. Le premier chiffre qui a été donné, c'était il y a un an, c'était 100 000, plus de 100 000, et depuis, plus aucune communication sur la Freebox Delta.
Alors c'est vrai que 100 000, ça paraît énorme, mais quand on a 6,5 millions d'abonnés,
en relatif, c'est rien.
C'est rien.
Et surtout, l'impact auquel on s'attendait, c'est-à-dire de voir le panier moyen des abonnés augmenter, en fait, c'est l'inverse qu'on voit, c'est-à-dire une chute aujourd'hui
sur le fameux ARPU.
Le ARPU, c'est le revenu moyen par abonné en français. C'est-à-dire au premier trimestre, il était de 32 € en moyenne par mois, contre 32,5 au trimestre précédent. Alors, 5 centimes pour vous, c'est rien. Oui. Mais vous multipliez par 6 millions de personnes, ça fait 3 millions par mois.
Fois 12.
Et on
ça
voit
fait beaucoup d'argent.
Ça fait beaucoup. Et là, on voit une box qui se positionne quand même, mine de rien, à 40 euros, hein, quand même. Hein, même si c'est, comme le disait Jean-Sébastien, 30 € la première année. pour les nouveaux abonnés, hein. Pour les anciens qui switchent, on passe directement à 40 euros.
Oui, et on paye des frais de migration,
Voilà. Et donc, on voit bien que cette box, elle est aussi faite pour, de manière plus subtile que la précédente, faire monter le panier moyen. Alors, pas à 60 euros comme la Freebox Delta, mais au moins au-delà des 32 euros qui est la moyenne aujourd'hui. Parce que c'est le cœur du réacteur de Free qui finance tout le reste, et notamment la guerre dans la téléphonie mobile, et de pouvoir permettre des forfaits limités à 10 euros. Donc, l'idée, c'est on revient au basique, mais même au basique économique de Free, qui est... On solidifie la base d'abonnés fixes.
Une offre simple, qui n'était pas le cas avec Freebox Delta, qui était une usine à gaz.
Exactement. Lisible.
Et qui est toujours buggée. Hein,
et en plus, oui.
Toujours buggée. Avec un petit plus, qui est quand même pour moi anecdotique, mais ça, peut-être que je vais me faire allumer par les pro-foot, mais dire que, comme ils ont acquis les droits sur la Ligue, la Ligue 1 2020-2024, Free peut diffuser les meilleurs moments, les buts, les arrêts, et peut, alors sous forme d'alerte, parce qu'il n'a pas le choix, puisqu'il n'a pas la totalité matchs.
Il ne peut pas retransmettre un match en intégralité. Exactement. Il y a quelques secondes comme ça qu'il peut...
Moi, quand j'avais vu Xavier, je lui ai dit, mais c'est quoi l'intérêt Enfin, moi, je ne regarde pas le foot, mais quelqu'un qui adore le foot, il veut voir tout le match, non pas... Et il me dit, ah, mais non, vous comprenez rien, les jeunes, eux, ce qu'ils veulent, c'est les moments marquants. Ils n'ont pas le temps de tout faire. Ils veulent les moments marquants, donc là, on va leur offrir. Ouais. Donc, au moment où on regarde Netflix, où, eh ben, on peut avoir une alerte sur regarder le meilleur but du PSG ou de Marseille.
Je trouve ça plutôt malin, comme j'aime bien le foot, et je trouve ça plutôt malin comme positionnement. Justement.
Alors, malin jusqu'en 2024, quand même, hein, parce qu'après, ils n'ont plus les droits. Donc, il va falloir en réacquérir.
C'était un lieu qui n'était pas très cher. Il était à 50 millions d'euros par milliard d'euros par saison.
Exactement. Donc, il en a fait un argument marketing, avec un coût qui est, somme toute, modeste dans les droits du foot. Et ça, c'est le petit plus, en fait, de cette Freebox. Mais en tout cas, le truc de fond, c'est qu'on va remonter le panier moyen des abonnés avec cette box-là, quitte à dégrader, justement, le panier moyen sur la téléphonie mobile avec un forfait à 10 euros.
Oui, comme tu le disais, c'est un peu le désaveu de cette Freebox Delta qui avait eu du mal, même nous, à nous convaincre dès le départ. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, Xavier Niel l'a avoué à demi-mot lors d'une interview qu'on a eu le plaisir de faire sur 01 TV, que vous pouvez retrouver, hein, plus de 50 minutes d'entretien avec toutes les questions sans concession. Franchement, si vous vous intéressez au monde des télécoms, ça va bien au-delà de Free. Cette interview est à retrouver sur 01 TV, alors à la fois sur le web, mais aussi sur la chaîne, sur les box. On reste dans les télécoms, Emmanuel, avec encore une fois ce nouveau couperet qui vient de tomber sur Huawei et l'utilisation en fait des infrastructures de Huawei en France. On attendait ça depuis des années. L'État a tranché sans vraiment être, en disant OK, mais et avec un gros mais.
Oui, un gros mais quand même, hein, parce que l'idée, effectivement, c'est que l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc l'ANSSI, devait donner le feu vert aux opérateurs télécoms, en l'occurrence SFR et Bouygues, de pouvoir déployer des antennes 5G Huawei sur le territoire français. Et ce qu'a dit l'ANSSI, c'est en gros, vous pouvez le faire, mais on vous donne un délai entre 3 et 8 ans pour enlever tout ce qui est Huawei du réseau mobile en France. Donc c'est quand même un couperet à court terme, quand même, parce que 3 à 8 ans, ça passe assez vite dans le monde des télécoms.
Après, bon, c'est un monde qui bouge beaucoup. Peut-être que d'ici 3 à 8 ans, la situation géopolitique aura changé aussi.
Ça peut, mais c'est vrai que quand on regarde de l'autre côté de la Manche, donc au Royaume-Uni, là maintenant, le gouvernement qui avait dit on veut que 35% de parts de marché maximum pour Huawei dans les infrastructures, maintenant reviennent en arrière et disent on va totalement bannir Huawei sous quasiment 3 ans. Et là, donc, le PDG de BT a dit devant en fait, les gouvernants, les élus, en disant que ce n'était pas possible. Si on donnait que 3 ans, il y aurait des blackouts sur tout le réseau 3G, 4G, 5G au Royaume-Uni, qu'il fallait en fait un grand plan de bascule et qu'il fallait beaucoup plus de temps pour en fait se désengager des technologies Huawei. Et puis dans le même temps, on voit l'ambassade de Chine qui a commencé en fait à lancer des avertissements à la France et au Royaume-Uni en disant attention, si vous faites ça avec Huawei, ben, y aurait peut-être une forme de réciprocité en Chine et on va peut-être éviter de signer des contrats avec dans l'énergie, par exemple, où il y a des grands contrats en cours, dans les transports, où il y a des grands contrats en cours. Donc,
ou toutes les grandes marques de luxe qui cartonnent en Chine.
Exactement. Hein. Donc on voit que ça va dépasser très largement le domaine des télécoms et que c'est une guerre commerciale derrière qui est en train de se jouer entre l'Europe et la Chine.
Et qui est en train de se reproduire, peut-être alors une guerre moins violente et plus subtile qu'il y a entre les États-Unis et la Chine, finalement.
Exactement, parce que là, c'est deux blocs qui sont de force égale. Entre l'Europe et la Chine, on peut se demander qui est le plus puissant aujourd'hui. Pour moi, la réponse est assez vite vue. Mais bon, voilà.
Mais ça va être compliqué. Alors, tous les opérateurs français ne sont pas visés. C'est plus Bouygues Télécom et SFR qui ont de gros partenariats avec Huawei.
Exactement, oui. Pas Orange, pas en France. Mais Orange est très dépendant de Huawei à l'extérieur des frontières.
Dans d'autres pays, oui, puisque Orange n'est pas...
Et Free aussi. Hein, parce que Free a utilisé, par exemple, que du Huawei chez Monaco Télécom.
Oui.
Donc,
alors bon, c'est une petite. C'est une
ah oui, et ça appartient pas à Free, pardon, ça appartient
à Xavier Niel.
À Xavier Niel en
personne. Appartient à Xavier
autant
Niel,
pour moi.
Voilà, ouais. C'est ça. Mais bon, on voit que ça va être très compliqué, hein, parce que imaginez, bon, vous êtes opérateur télécom et on vous dit, bon, voilà, dans 3-5 ans, les gars, il faut démonter tout ce qui est Huawei. Hein. Bah, vous avez investi des milliards là-dessus.
Oui, hein. Exactement.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État va dédommager une partie des opérateurs.
C'est ce que veulent les opérateurs.
C'est nous qui décidons que vous n'allez plus utiliser Huawei, donc on va vous donner de l'argent.
Exactement. C'est ce que veulent les opérateurs, parce qu'il y a un précédent qui est aux États-Unis où ils ont créé un espèce de fonds de compensation. Et les opérateurs français aimeraient qu'il y ait un même fonds qui soit mis en place par le gouvernement.
Surtout au moment où ils doivent déployer le réseau 5G en plus et donc investir...
acheter les fréquences, plus, déployer voilà, le réseau. Ouais, exactement.
Alors les alternatives à Huawei aujourd'hui, c'est Nokia, c'est Ericsson.
C'est ça.
C'est Samsung aussi, dans une moindre mesure.
Dans une moindre mesure. Et il y en a un autre qui commence un peu à émerger. Alors, on ne le voit pas beaucoup en dehors de ses frontières, mais c'est NEC, le japonais, qui fait des tests sur le territoire japonais.
D'accord.
Et qui ont l'air de pas mal se passer.
Flairer le bon coup.
En se disant, ouais, il y a une ouverture. Comme Samsung, d'ailleurs. Samsung a un petit coup d'avance, même s'ils ne sont pas très présents sur le réseau 3G, 4G. Donc, ça veut dire que quand vous équipez Samsung, faut refaire tout, en gros. Donc, ça coûte extrêmement cher. Donc, ils ont du mal à pénétrer quand même le marché européen. Et NEC, eh ben, on va voir dans les mois ou années qui viennent.
C'est intéressant, hein, tout ça. On enchaîne avec Apple. Apple qui ouvre un programme de réparation d'iPhone dans des magasins indépendants,
oui,
non plus forcément des Apple Store.
C'est ça. C'est intéressant parce que vous avez peut-être expérimenté ça si vous avez un iPhone. En général, quand on fait réparer son écran cassé dans une boutique indépendante, hors garantie, avec des prix assez abordables, on se retrouve souvent une semaine ou deux après, ou un mois, avec le bouton d'accueil qui ne fonctionne plus, etc.
Oui. L'écran qui part tout seul, en
vrille,
etc.
Voilà.
Enfin,
donc,
ça
parce que, effectivement, les pièces ne sont pas forcément des pièces officielles, etc. Et donc, pour éviter ça, Apple décline en France... Donc un an après les États-Unis, c'est quelque chose qui existe déjà là-bas, un programme de certification de réparateurs indépendants. Donc en gros, les réparateurs peuvent suivre gratuitement une formation en ligne, en fait, tout simplement. Et c'est cette personne-là qui va réaliser dans la boutique les réparations sur les iPhones, qui sont des iPhones hors garantie. Donc. Et donc c'est intéressant parce que ça permet surtout aux boutiques d'accéder aux pièces officielles d'Apple.
N'était pas le cas avant.
Ce qui n'était pas le cas, voilà.
Et c'est pour ça qu'on se retrouvait avec des pièces qui étaient des imitations.
Exactement.
Parce qu'Apple gardait son trésor de guerre pour lui.
Voilà.
Et on était obligé d'aller dans un Apple Store pour faire apparaître son téléphone.
C'est marrant parce que finalement, c'est Apple qui retenait ses pièces et qui, du coup, maintenant, donne cette possibilité pour justement pouvoir installer ça et éviter les mauvaises surprises aux clients. Et donc, essayer de prolonger un petit peu l'expérience client des Apple Store dans ces boutiques indépendantes. Donc, ça y est, ça arrive en France et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les iPhones qui ne marchaient plus au bout d'un mois après l'apparition, c'était quand même un petit peu compliqué.
Il faut voir si les tarifs vont être les mêmes. C'est ça aussi qui va...
Ce sera certainement plus cher.
Qui va être...
Avec les pièces officielles d'Apple.
Mais est-ce que ce sera quand même moins cher que le fait d'aller dans un Apple Store?
Normalement, oui. Mais bon, c'est... Voilà, c'est
voilà. Et est-ce que toutes les boutiques vont vouloir y passer aussi? Est-ce que toutes les boutiques vont vouloir se faire agréer par ce service? Pourquoi Apple fait ça, à ton avis, Emmanuel?
Bah, je pense que la raison, elle est assez simple. Il y a une double raison, enfin, pour moi. La première, c'est que le marché du smartphone est en forte baisse. On en reparlera tout à l'heure peut-être avec Samsung, mais on a enregistré une baisse des ventes de smartphones de moins 11%. Alors, c'est lié au coronavirus, hein, mais donc il y a un phénomène conjoncturel, mais il y a un phénomène aussi structurel qui est de dire que en Europe et aux États-Unis, tout le monde est quasiment équipé. On arrive à un marché de saturation. Autant avant, l'idée, c'était de conquérir des nouveaux clients. Autant là, maintenant, tout le monde en a un. Alors, et puis, les gens veulent le garder un peu plus longtemps. On voit aussi la durée de vie et de rétention d'un téléphone qui dure un peu plus longtemps qu'avant. Avant, c'était 12 à 16 mois, voire 18 mois. Maintenant, ça a tendance à s'allonger avec le prix aussi des terminaux qui augmente. Donc, Apple se retrouve un peu contraint de dire si vous ne le changez pas, on peut quand même vous le réparer. Donc, il y a une double contrainte. Un marché baissier qui fait que les gens achètent moins. Et puis un marché mature sur lequel les gens attendent de se rééquiper le plus longtemps possible. Donc je pense que Apple ne le fait que là où le marché est déjà bien, en gros en stagnation quasiment.
Et on se souvient aussi que Apple mettait dans ses pièces détachées, dans certaines pièces détachées, des petites puces.
Tout à fait.
Qui permettaient en fait de désactiver le téléphone ou alors de le rendre hors d'usage, si on avait préalablement installé une pièce qui n'était pas d'origine. C'est presque une espèce de marche arrière en disant écoutez, voilà, maintenant on vous fournit toutes les bonnes pièces, mais à peu près n'importe qui, enfin en tout cas un réparateur agréé non Apple pour installer, en tout cas réparer un iPhone. Ça, c'est intéressant. On enchaîne avec Samsung maintenant, Jean-Sébastien. On se donne rendez-vous le 5 août prochain sur
la
plage.
5 août prochain, alors sur la plage, si vous y êtes, parce que vous allez pouvoir suivre la keynote de Samsung sur le Galaxy Note 20 en direct, parce que ce sera en plus une keynote un peu comme celle... qu'Apple a fait pour la WWDC, sans public, voilà. C'est les nouvelles keynote post-Covid. Ce Galaxy Note 20, on commence à avoir pas mal d'informations. Alors évidemment, il intégrera le célèbre stylet, hein, c'est ce qui a fait sa caractéristique principale.
C'est son ADN, hein, c'est sa différence par rapport aux autres téléphones.
Clairement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il devrait y avoir deux versions, dont une qui serait le Galaxy Note 20 Ultra. Alors pas forcément avec un écran plus grand, mais avec des meilleures capacités photographiques. Voilà, capteurs peut-être, un capteur supplémentaire par rapport à l'autre, etc. Et puis en plus, Samsung pourrait faire une sorte de petit one more thing avec nouvelle version du Galaxy Fold, donc ce téléphone pliant, dont on dit qu'elle serait beaucoup moins chère, autour des 1000 euros, plutôt que les 2000 et quelques euros que coûte le Galaxy Fold actuel. Et ça permettrait à Samsung de faire, commencer à faire une mini-gamme de téléphones pliants, puisqu'il y a le Galaxy Z Flip aussi qui existe. On est assez curieux de voir ce que va annoncer Samsung et comment justement il va arriver à se démarquer des autres marques. La concurrence commence à être assez rude sur le monde Android. Il y a des vrais concurrents en face qui ont des solutions solides.
Même si Huawei est hors jeu maintenant, il y en a d'autres. Hein. Et on en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Nicolas Lelouch, puisqu'on vous proposera le top 10 des smartphones les plus sympas, en tout cas les plus puissants du moment. Ceux qu'il faut acheter en tout cas. Emmanuel, concernant Samsung, je voulais revenir sur le pliant, parce que ça fait maintenant un an et demi qu'on nous bassine avec ça. Ça marche pas, on est d'accord.
Bah pour l'instant, les ventes ne sont pas là. Alors, d'une part, c'est, comme le disait Jean-Sébastien, on est encore sur des tarifs qui sont extrêmement élevés pour acheter ce type de technologie. Et puis, on a vu aussi tous les problèmes de rupture, de cassure des téléphones. D'ailleurs, les Samsung, les premiers qui étaient à écran pliable ou pliant, je ne sais pas comment on dit, mais.
Pliant.
Où il y avait pliant, voilà. Où il y avait. Pliant.
Ah oui, chez 01, ça a été le gros débat.
C'était
de l'hiver.
Bon, je m'aligne. Alors, pliant, alors, du coup. Et on a vu effectivement pas mal d'entreprises qui ont dû rappeler des téléphones ou mettre en place des systèmes en fait, de remboursement, puisque il y avait des cassures. Donc, c'est vrai que les débuts n'ont pas été très, très convaincants pour ce type de technologie. Après, il y a eu le Razr de Motorola qui est ressorti, donc qui appartient à Lenovo. Donc une entreprise chinoise.
Il n'a pas fait grand bruit non plus.
Non, pas beaucoup. Oui, alors que c'était quand même.
C'était le Razr, mais c'est tout.
Oui, puis c'était vraiment la grosse relance de Motorola sous l'ère Lenovo. Ça fait un peu petit. Donc moi, je suis assez circonspect pour l'instant. J'attends de voir effectivement si les technologies s'améliorent au fur et à mesure des générations. Ou si c'est une façade et puis on va vite passer à autre chose.
Oui, ça sert des questions d'usage aussi. Si les gens qui achètent ça se rendent compte qu'il n'y a pas forcément d'usage supplémentaire par rapport à un téléphone classique, c'est pas très convaincant de mettre 1000 euros de plus qu'un téléphone traditionnel.
C'est clair.
Pour avoir quelque chose qui.
Voilà,
qui
en tout cas,
forcément.
Rendez-vous le 5 août.
Et qui peut casser.
Le 5 août prochain pour découvrir ces nouveautés Samsung. Alors peut-être êtes-vous en train de regarder ce de quoi je me mail en vidéo sur votre smartphone ou sur votre tablette, sur votre PC. Pour ça, vous avez deux moyens. Vous avez Dailymotion, vous avez aussi le site 01TV avec le player Dailymotion intégré. Et puis, il y a aussi YouTube.
Oui.
Et peut-être que l'expérience de visionnage que vous avez de quoi je me mêle va peut-être changer bientôt sur YouTube.
C'est ça. Si les publicités YouTube vous énervent un petit peu, préparez-vous à en voir un peu plus.
Tu veux dire par là que tu risquerais d'être coupé maintenant par une pub.
Tout à fait.
Sans rien demander.
J'ai rien demandé en plus.
Non, t'es là, tranquille, tu fais ta petite news. Voilà. Et paf.
Et paf, une pub. Alors, pourquoi ?
C'est terrible.
Parce que, en fait, YouTube a informé cette semaine les créateurs qui pourront désormais insérer des publicités à l'intérieur des vidéos, donc ce qu'on appelle les publicités mid-roll, à partir du moment où elles font 8 minutes. Alors, c'est une évolution parce que jusqu'à présent, c'était seulement les vidéos d'au moins 10 minutes qui permettaient l'intégration de ces publicités-là. Donc, au milieu des vidéos, puisque les autres vidéos de moins de 8 minutes maintenant, il y a des pubs avant et après, et c'est tout, pas au milieu. Donc, YouTube explique que ça s'appliquera non seulement aux nouvelles vidéos, mais aussi à toutes les vidéos existantes qui sont déjà sur YouTube. Et effectivement, ça va forcément multiplier l'affichage de publicité. Mais aussi, un des autres effets collatéraux de ça, et c'est assez marrant, c'est que les YouTubeurs vont certainement commencer à faire des vidéos un peu plus courtes. Parce que souvent, si vous regardez relativement souvent YouTube, vous voyez que des fois les YouTubeurs ils tirent un peu la ligne pour essayer d'allonger les vidéos parce qu'ils disent si j'allonge ma vidéo, je vais pouvoir mettre la pub au milieu, je vais gagner un peu plus d'argent. Donc ça va être aussi peut-être un moyen de raccourcir cette durée-là. Et effectivement, il y a eu beaucoup de YouTubeurs dernièrement qui se sont plaints avec la crise du Covid, avec le confinement, etc. Il y a eu une baisse de revenus sur les revenus publicitaires des YouTubeurs. Et donc c'est aussi un geste de YouTube pour leur proposer justement de peut-être gagner un peu plus d'argent après cette crise-là.
Bon, en espérant que l'expérience utilisateur, comme on dit, soit pas trop dégradé,
oui.
Ce qui risque d'être le cas quand même.
C'est
Alors c'est quoi, YouTube fait un cadeau aux youtubeurs, c'est ça?
Non,
à eux aussi. À eux aussi.
Ouais, c'est surtout à eux aussi,
parce que évidemment, parce qu'ils prennent de l'argent là-dessus.
Exactement. Pour la première fois, il faut savoir que Google a communiqué sur le chiffre d'affaires de YouTube en fin d'année dernière. Donc en 2019, YouTube a fait 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc maintenant, c'est une entité à part et on voit le chiffre d'affaires trimestre après trimestre. Donc il y a une pression des analystes pour dire, est-ce que ça croît? Et sur le premier trimestre 2020, YouTube est passé de 3 milliards de chiffre d'affaires au premier trimestre 2019 à 4 milliards, hein, donc 1 milliard de plus. Donc ils ont la pression maintenant sur YouTube pour engranger du chiffre d'affaires. Jusqu'à maintenant, c'était sous le radar. Maintenant, c'est dans le radar des analystes. Rajouter ce qu'on appelle de la publicité interstitielle ou mid-roll, comme tu disais. Aujourd'hui, on a juste du pré-roll et du post-roll. Hein, c'est-à-dire, on met de la publicité avant l'émission et ou après l'émission. Là, maintenant, on peut effectivement... C'est un
saucissonné.
Peu comme saucissonné, voilà. On peut mettre des tranches comme ça à peu près quand on veut. Donc ça, c'est effectivement, c'est un cadeau peut-être pour les créateurs, parce que ça va augmenter leur revenu, mais ça va surtout augmenter le revenu de YouTube et la pression qu'ils ont vis-à-vis des analystes de monétiser encore plus la plateforme.
YouTube gagne de l'argent aujourd'hui?
Bah alors,
parce 15 milliards de chiffre d'affaires, mais on ne sait pas combien ils font de bénéfices.
Non, alors ils ne le mettent pas dans le résultat opérationnel, ils notifient juste le chiffre d'affaires global. Hein,
parce que j'imagine les coûts de bande passante pour YouTube, ça doit être incroyable.
Sachant qu'ils ont quand même maintenant leur infra aussi, hein, qui sont justement logés maintenant chez les opérateurs télécoms. Mmh. Ils ont des CDN,
ça nécessite des investissements colossaux.
Exactement, mais après, une fois qu'ils sont dedans...
Oui. Ils sont chez eux.
Alors après, ils payent un peu aux opérateurs télécoms. C'est des contrats, moi j'ai toujours posé la question aux opérateurs télécoms. Visiblement de confidentialité, on n'arrive jamais à savoir combien paye YouTube pour être dans les réseaux. Voilà.
Bon, même Free, c'est top secret. Hein.
C'est top secret. Free qui était en guerre avec YouTube il y a quelques années, vous vous souvenez. Hein. Maintenant, il y a de l'Android dans les box. On se dit, tiens, c'est quand même bizarre. Et surtout, YouTube fonctionne beaucoup plus
beaucoup mieux,
sur Free.
Ça, ouais.
Donc j'ai dit, il y a un accord commercial. Et là, on m'a fermé la porte au nez. On dit, ça ne vous regarde pas.
Ça vous apprendra.
Voilà, exactement.
Il y a eu la même chose avec Netflix hein, chez Free. Hein. Exactement le même problème. Hein. Pendant des années, on avait un débit pourri chez Free quand on avait Netflix.
Ouais.
Et puis tout d'un coup, Netflix arrive dans la Freebox Delta. Enfin tout va bien, etc. Et puis,
des accords commerciaux, quoi.
Mais bien sûr, on voit que tout ça, c'est une stratégie.
Exactement.
Que tout le monde utilise. Hein. On va parler peut-être... Bah justement, tiens, puisqu'on évoque la vidéo, vous savez que la vidéo, c'est de la bande passante. Hein.
Tout à fait.
C'est-à-dire que plus vous avez de débit, plus, en théorie, vous avez une meilleure qualité d'image. Et l'objectif des ingénieurs hein, qui travaillent sur les codecs vidéo de la compression, c'est d'avoir la meilleure image possible avec le moins de débit possible.
Mmh.
Et là, il y a des progrès exponentiels qui sont faits régulièrement.
Oui.
Et c'est le cas de ce nouveau codec qui va arriver.
Oui, là, c'est vraiment un grand pas. Hein. C'est le codec H266 VVC. Qui veut dire versatile vidéo coding. En gros, c'est intéressant pour notre futur quotidien, en fait, puisque c'est l'institut allemand Fraunhofer. Alors, Fraunhofer, c'est l'institut qui a créé le MP3, par exemple.
Hein, oui, c'est pas des rigolos. Hein,
voilà, au niveau compression et codec, ils sont un petit peu calés, les garçons. Donc, ils viennent de finaliser ce nouveau format de compression, et d'après les travaux qu'ils ont réalisés, en gros, une vidéo 4K de 90 minutes qui pèse 10 gigas, eux, ils ont réussi à en faire un fichier de 5 gigas seulement. Et tout ça sans réduire la qualité d'image, ce qui est quand même ultra intéressant. Donc ce nouveau format en plus VVC, il est compatible avec toutes les définitions d'image, hein, SD, HD, Full HD, 4K, 8K.
8K aussi.
Tout à fait. Voilà. Il gère aussi la HDR, donc c'est vraiment voilà, un fichier vidéo moderne. La vidéo à 360 degrés pour tout ce qui est réalité virtuelle. Mais forcément, il y a un petit mais, c'est-à-dire que le codage et l'encodage de cette vidéo, il faudra qu'il soit fait en hardware par une puce dédiée sur nos smartphones et nos ordinateurs. Et donc,
ah oui, d'accord. Donc par exemple, avec mon PC, là, je veux décoder du H266...
Bah, il y arrivera peut-être, mais plus difficilement et en consommant beaucoup d'énergie.
Ouais, ou alors, il faut que j'ai un PC vraiment puissant avec un processeur...
Tout à fait. Mais après, c'est pas nouveau, parce que le H264 et le H265...
On avait le même problème.
C'était le même problème. Alors, ce qui est malin, c'est que l'Institut Fraunhofer, effectivement, a créé un Media Coding Industry Forum avec 30 acteurs. Donc, il y a Apple, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm, Sony, voilà tous les grands noms aussi des semi-conducteurs et de la vidéo, pour mettre au point ces puces-là qu'on retrouvera bientôt dans les prochaines générations de smartphones et d'ordinateurs.
Voilà, ça va arriver.
Oui, ça va arriver, voilà, ça permettra d'économiser un peu de bande passante sûrement. Ou de regarder plus de vidéos.
c'est YouTube qui va être content.
Hein, sûrement, oui.
On va terminer, Manuel, par la réglementation concernant les véhicules autonomes qui évolue.
Oui.
Un peu partout, et c'est le cas en Europe.
Oui, alors c'est même les véhicules connectés, hein, parce qu'autonome, on n'y est pas encore, alors on y arrive. Donc l'idée, effectivement, c'est les Nations Unies qui ont signé en fait des grandes guidelines, donc des grands principes de protection de la voiture connectée pour éviter une prise de contrôle à distance éventuelle ou un piratage à distance du véhicule. Donc 53 pays ont adopté en fait ces guidelines. La Corée du Sud va les appliquer dès cette année pour ces véhicules connectés, le Japon l'année prochaine, et l'Europe s'est laissée jusqu'en 2022. Donc c'est des principes communs. Alors, le commun à tout le monde, enfin, c'est 53 pays, sauf les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas signé cet accord. Ils ont leur propre système de protection de voitures connectées. Une loi est passée aux États-Unis il y a quelques mois, années de ça, hein, pour protéger les voitures connectées de tentatives d'intrusion extérieure. En revanche, les fabricants américains, quand ils voudront exporter en dehors du territoire américain, donc en Europe, au Japon ou en Corée, ils vont devoir suivre à nouveau ces guidelines. Donc, il va falloir un double principe pour les fabricants d'automobiles
américains.
Est-ce
qu'on sait ce qu'il y a dans ces guidelines? C'est quoi? C'est des
Alors moi, j'ai pas réussi à aller voir
pour l'instant. Protocole de sécurité.
Est-ce que c'est le Wall Street Journal qui a sorti l'information? Ouais. Ils ont
oui,
pas donné.
On n'est pas rentré encore dans les détails vraiment.
Non. Alors je pense que les fabricants vont l'avoir d'ici peu. Donc on pourrait avoir effectivement les éléments, que ça soit du côté serveur pour le côté voiture connectée, que du côté embarqué sur le véhicule en lui-même, et de voir un peu comment tout ça va être sécurisé de bout en bout.
Oui, voilà, c'est ça. L'objectif, c'est de sécuriser au maximum un véhicule connecté, parce que demain, un véhicule connecté, en théorie, il sera autonome. Et on peut imaginer qu'en termes de sécurité, il faudra être le plus sûr possible.
On n'a pas envie que quelqu'un prenne la main sur son véhicule.
Ah non,
c'est ça, exactement.
Ouais. Ça risque d'être un peu embêtant, oui. Hein, quand même. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Jean-Sébastien Zanqui, journaliste à Zeronet.com, et à Emmanuel Paquette, donc de l'Express. Merci à tous les deux. Ce De Quoi Je Me Mêle se poursuit dans un instant. Vous avez un petit peu d'argent, là, peut-être que vous avez eu le bac, par exemple. Nous, c'était il y a quelques mois, oui. Le bac. Hein. Oui. Voilà, peut-être que vous avez eu, quelques centaines d'euros et vous avez envie de changer votre smartphone. Vous ne savez pas quel modèle choisir. Ça tombe bien, Nicolas Lellouche, qui lui vient d'avoir son bac, parce qu'il est beaucoup plus jeune que nous, va tout nous dire comment choisir son smartphone et quels sont les meilleurs du moment. A tout de suite.
RMC 01 TV, François Sorel, De Quoi Je Me Mêle.
C'est le retour de Quoi Je Me Mêle, toute l'actualité des nouvelles techno. A noter qu'on sera là jusqu'à fin juillet, et puis après, petit break estival. Comme chaque année, on va poursuivre ce De Quoi Je Me Mêle avec un guide d'achat. Si vous vous apprêtez à changer de smartphone avant de sortir la carte bleue, écoutez ce qui suit, car nous avons notre spécialiste Nicolas Lellouche qui est là. Bonjour Nicolas.
Bonjour François.
Nicolas Lellouche, journaliste à Zeronet.com. Vous le savez, Nicolas, son job, c'est de tester 24 heures sur 24, quasi 7 jours sur 7, tous les smartphones qui arrivent en France. Voilà, donc autant vous dire qu'il est plutôt calé. Et avec toi, Nico, on va faire le point un peu sur les smartphones aujourd'hui vraiment incontournables si on doit investir. Alors, des grosses sommes, hein, puisqu'on va évoquer le haut de gamme, quelques bonnes affaires, des bons rapports qualité-prix, et puis aussi, pour des budgets plus modestes, ce qu'il y a de mieux actuellement. Donc ça va intéresser tout le monde, là on va essayer d'être le plus exhaustif possible concernant les smartphones du moment en cette mi-2020. Une année 2020 vraiment étonnante, hein, avec ce Covid qui a ébranlé un petit peu toutes les sorties des smartphones, même si on voit qu'Apple a sorti malgré tout hein, son SE, enfin il y a eu même d'autres constructeurs qui ont sorti des smartphones. Le Covid a eu un impact sur les sorties et sur l'innovation cette année.
Il a eu un impact considérable, non pas sur les sorties où finalement le calendrier des constructeurs a plutôt été maintenu, puisqu'en fait généralement le marché fonctionne avec sur la première partie de l'année, toutes les grandes marques sortent leurs smartphones haut de gamme parce que c'est de la démonstration technologique, et sur la deuxième partie de l'année avec la rentrée, avec Noël, on est plutôt sur le milieu de gamme, entrée de gamme, où ici du coup on va attaquer les plus petits budgets justement pour les fêtes de fin d'année.
D'accord.
Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les marques ont continué, malgré le confinement, à annoncer des téléphones. Souvent, du coup, il n'y a plus de grosses conférences dans des grandes villes. Ils se sont contentés d'un live stream et d'un lancement retardé de un ou deux mois.
Rappelons qu'il n'y a pas eu le Mobile World Congress.
Mobile World Congress. Il y a eu, par exemple, le Huawei qui devait faire une grande conférence à Paris, ça a été annulé. Oppo, pareil, ça a été annulé.
Le P40 est sorti en plein confinement.
Tout à fait. Il y a eu plein de marques. L'iPhone SE a été annoncé par communiqué de presse. C'est la première fois qu'Apple annonce un iPhone sans conférence. Donc du coup, il y a eu pas mal de changements liés au Covid. Mais c'est vrai que là où tu as raison de dire que le Covid a un impact sur le marché du smartphone, c'est qu'en fait ça fait plusieurs années que le marché est en baisse de 1 ou 2% d'une année sur l'autre. Et là, ils espéraient en 2020 qu'avec la 5G, on ait un retour à la croissance du marché. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On s'attend à une chute sur la fin de l'année de environ 15%. Donc c'est une grosse, grosse chute qui normalement devrait provoquer un rebond en 2021.
On va parler de la 5G dans un instant. Mais pour revenir justement à ce petit pourcentage qu'on perd chaque année sur les ventes globales de smartphones, c'est dû à quoi, Nicolas? C'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont équipés, bien équipés. et qu'il n'y a plus cette appétence à changer de téléphone tout de suite.
C'est lié à deux choses, oui. Déjà, on est sur un marché qui arrive à maturité, contrairement à d'autres. Le smartphone aujourd'hui est devenu mainstream, comme diraient les Anglais. C'est-à-dire que tout le monde ou tous ceux qui en veulent en ont déjà un. Et surtout, aujourd'hui, les produits sont si mûrs qu'ils vieillissent bien. On les garde longtemps, on les renouvelle moins souvent qu'auparavant. Et surtout, il n'y a pas de grosses innovations comme il pouvait y avoir au début de l'iPhone, au début des Galaxy S, où d'une année sur l'autre, on pouvait avoir un vrai game changer, quelque chose qui allait vraiment changer le marché et qui vous donnait envie d'investir dans un nouveau smartphone, même si le vôtre marchait encore bien. Donc du coup, le marché a un petit peu ralenti et la 5G était censée relancer ça. Ce n'est pas encore le cas, il va falloir attendre encore un petit peu plus.
Alors justement, avant de rentrer dans le détail de ta sélection, de ces 10 produits qui valent vraiment le détour, est-ce qu'il y en a qui sont 5G dans cette sélection ? Oui, j'imagine.
Il y en a pas mal, oui. Ce qu'on remarque, c'est que sur tous les smartphones haut de gamme annoncés en début d'année, quasiment tous sauf Apple, au final, sont 5G parce que les constructeurs pensent que sortir un smartphone non 5G aujourd'hui, ce serait se tirer une balle dans le pied et ça ne pourrait pas fonctionner parce qu'en France, il y a une réalité à prendre en compte, c'est que si chez nous, la 5G, on en est loin, ça sera encore un ou deux ans avant que ce soit vraiment déployé de partout. Dans d'autres pays, c'est déjà le cas. Et donc, vous ne pouvez pas débarquer aujourd'hui avec un smartphone haut de gamme, par exemple pour un Samsung ou pour un Oppo, un Huawei, sans 5G, puisque la Chine, l'Australie, même les États-Unis dans certains États.
La Corée,
évidemment. Vous allez avoir ces marchés. La Suisse aussi, on peut aussi parler de pays qui sont plus proches de nous. La 5G est déjà là. Donc, dans ces pays, on est obligé d'avoir une présence 5G. Même si, vous allez le voir, la 5G, en réalité, elle n'est pas encore hyper prête. Donc, du coup, ça ne vaut pas forcément le coup d'investir maintenant.
Bah justement, c'est la question que j'allais te poser avant qu'on rentre dans le détail de cette sélection. Est-ce que ça vaut le coup, si on voit le logo 5G sur une boîte d'un smartphone, de s'y précipiter aujourd'hui en 2020 ?
J'ai envie de dire que c'est toujours ça de prix, mais d'une certaine manière, ne faites pas votre achat d'un prochain smartphone sur ce paramètre.
Sur ce seul critère,
ne vous dites pas « Ah mince, celui-là, il n'est pas 5G, donc je vais plutôt en prendre un autre », pour deux raisons. Déjà parce que la 5G chez nous, elle n'est pas encore réalité. On ne sait pas quand elle le sera. Il faudra voir les forfaits, il faudra avoir la couverture.
Et on peut imaginer qu'on aura une couverture acceptable à la fin de la durée de vie du smartphone qu'on va acheter cette année.
Et d'autant plus que les smartphones actuels utilisent... vous savez, en fait, dans le smartphone, il y a le processeur, il y a la carte graphique, et il y a le modem qui permet justement les connexions 4G, 5G, Wi-Fi. Et ce modem, en fait, sur la partie 5G, il est à ses débuts. Donc, en fait, les performances que vous allez avoir sur un smartphone 5G acheté en 2020 sont largement inférieures à celles que vous aurez sur un produit acheté en 2021, et ne parlons pas de celui que vous achèterez en 2022. Donc du coup, acheter un smartphone 5G maintenant pour se connecter au réseau dans 3 ans, c'est l'assurance d'avoir une mauvaise 5G. Donc ça ne vaut pas forcément le coup. Si vous avez la 5G, c'est ça le prix, tant mieux, vous pourrez en profiter au lancement si vous possédez encore ce produit. Sinon, ce n'est pas du tout une priorité.
Est-ce que la 5G a un impact sur l'autonomie des téléphones qui en sont équipés ?
C'était une des questions qu'on se posait au laboratoire de 01net. Notre constat pour l'instant, c'est que les produits qui ont de la 5G et ceux qui n'en ont pas, n'ont pas de si grosses différences que ça. Maintenant,
c'est compliqué de tester un téléphone
5G
chez nous.
Exactement, une réalité à prendre en compte étant que nous, on active la 5G, mais qu'on n'est pas connecté à la 5G parce que le réseau n'est pas disponible. Donc du coup, le téléphone a beau rechercher un signal 5G en continu, s'il ne l'en trouve pas, on ne peut pas mesurer l'impact de la 5G sur son autonomie. On peut imaginer, en tout cas de ce qu'on voit de nos confrères américains, que oui, il y a un impact et qu'aujourd'hui, les smartphones 5G sont extrêmement énergivores et donc c'est encore, on revient à ce que je disais il y a une minute, il va falloir attendre les modems de prochaine génération pour avoir des smartphones mieux optimisés. Donc encore une fois, ne foncez pas vers la 5G. Si vous trouvez une excellente affaire en 4G, prenez-la, elle est très bien.
Voilà, pour terminer là-dessus, visiblement le prochain iPhone qui sera annoncé en septembre, qui sortira peut-être en octobre ou en novembre, sera 5G, on est d'accord.
Priori,
c'est vraiment les rumeurs.
Et c'est ce qu'attendent les opérateurs avec impatience, parce que
ça sera sans doute le coup, le vrai coup d'envoi.
Quand Apple fait de la 5G, ça va lancer de la 5G.
Allez, on rentre dans le détail maintenant de ce comparatif. Les 10 smartphones du moment, les plus intéressants, selon Nicolas. On va commencer par les hauts de gamme, c'est ça ?
On commence par les hauts de gamme. Donc, j'ai choisi 5 hauts de gamme. Comme je vous disais, c'est vraiment le moment de l'année où on a le plus de smartphones haut de gamme. Et c'est pour moi les 5 meilleurs, ceux qui m'ont le plus impressionné.
Alors, on commence par quoi ?
On va commencer par... pour moi, le meilleur smartphone de ce début 2020.
Alors, on attaque fort, là.
On attaque fort, parce qu'après, vous allez voir, on va se diversifier.
C'est pas un Final Countdown. Là,
On va récompenser celui qui est pour moi le meilleur cette année. C'est une grande surprise, c'est le Oppo Find X2 Pro. Pourquoi c'est une grande surprise ? Parce qu'Oppo, ça fait 2 ans qu'ils sont en France, et 2 ans qu'ils ont tendance à nous décevoir annonce après annonce, parce que c'est une marque qui fait un peu n'importe quoi en communication. Ça achète des sponsorings avec Roland Garros, avec Wimbledon, mais En même temps, les produits n'étaient pas si fous jusque-là. Et là, cette année, ils débarquent avec un produit qui est tout simplement hallucinant.
Donc ils sont matures, ça y est.
Ils sont matures, ils ont arrêté les petits excès de folie, vous savez, avec ces caméras rétractables qui sortent toutes seules du téléphone. Voilà, là on a un téléphone étanche qui fonctionne bien avec les dernières technologies du moment, un processeur haut de gamme de la 5G, un écran avec un taux rafraîchissement de 120 Hz, c'est-à-dire que c'est très fluide, un excellent appareil photo, un des meilleurs qu'on a pu tester avec un zoom x10 optique. Donc du coup, ce Oppo Find X2 Pro est très bon. Au niveau du design aussi, il est un petit peu différent de ce qu'on voit habituellement et ça fait plaisir. C'est-à-dire que vous avez du céramique ou du cuir végétal à l'arrière. Donc du coup, cuir végétal, hein, c'est du plastique. Hein, mais bon, c'est en tout cas le terme marketing
de dire du
cuir végétal. Mais en tout cas, c'est très cool en main. Et ça change tous ces smartphones en aluminium ou en verre qui se ressemblent depuis des années. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit. Seul défaut, il est très cher. C'est 1 200 € sans forfait.
1 200 € sans forfait,
évidemment, ça tombe beaucoup plus bas. À vous de voir si c'est rentable ou non, mais en tout cas, voilà, que vous l'achetiez ou non, sachez que le Oppo Find X2 Pro est notre coup de cœur de ce début 2020 parce que c'est un excellent produit.
En termes de photos, en termes de performance, l'écran.
Il coche vraiment toutes les cases.
La charge, parce que c'est l'une des capacités et de spécificités d'Oppo. Hein, c'est vraiment
La charge ultra rapide, ouais. C'est le smartphone haut de gamme qui se charge le plus vite. C'est 35 minutes de mémoire selon nos mesures. C'est-à-dire que vous avez 0% de batterie, vous le branchez 10 minutes et vous avez 50%.
Ouais,
donc c'est complètement délirant et avec 50% vous tenez largement une journée.
Alors il faut avoir un chargeur spécifique. Hein,
oui, c'est le chargeur qui est fourni par Oppo dans la boîte. Évidemment, si vous le branchez à votre ordinateur, ça charge aussi rapidement que sur n'importe quel autre smartphone.
C'est la surprise, hein, tu le disais, de 7000-2020. On n'attendait pas Oppo sur ce segment-là.
On ne les attendait pas du tout.
C'est-à-dire qu'Oppo fait mieux que Samsung, fait mieux que Huawei, fait mieux qu'Apple, enfin... Voilà, dans son domaine.
Sur ça, ils ont volé la vedette à Samsung et on attendait les Galaxy S20 comme les gros champions. Et
oui,
ça a tellement été le cas.
Ouais. Bon, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs du Galaxy S20.
Justement,
tout
voilà,
suite.
C'est le prochain.
C'est le deuxième.
Ça serait le deuxième, mais pas le Galaxy S20 Ultra, le Galaxy S20 et le Galaxy S20 Plus. Et c'est justement ce choix qui est assez étonnant. On pouvait penser que Samsung, vous savez, cette année a lancé deux gammes de Galaxy S20, les S20 et S20 Plus qui sont des évolutions du S10. Et le S20 Ultra qui est censé être une démonstration technologique avec
puissant,
une batterie ultra haute capacité, avec un zoom x10 lui aussi, mais qui peut monter jusqu'à x100 en numérique. Mm-hmm. C'était une première, jamais un constructeur n'avait fait ça auparavant.
Je me souviens de tes photos de la Tour Eiffel,
grosse
600 fois.
C'est ça.
On la reconnaissait, bon, elle était un peu pixelisée.
C'était évidemment pixelisé, mais voilà, l'intérêt n'est pas d'aller jusqu'au x100, mais justement d'avoir une plage où on peut augmenter, et donc le x30, le x40 est très correct. Maintenant, le Galaxy S20 Ultra, il a déçu, parce qu'il est gros. Parce que son appareil photo, le téléphone est lourd. L'appareil photo, on sent que c'est un peu un prototype. Il a des airs de OK, cette nouvelle technologie est cool, mais elle n'est pas finie. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de l'exclure de ce classement des coups de cœur de 2020.
Parce qu'il est vraiment en dessous des S20 et du S20 Plus.
Les S20 et les S20 Plus, c'est des smartphones matures. C'est vraiment la maturité au sens propre. C'est vous avez des smartphones qui montrent le savoir-faire de Samsung. Ils tentent pas de révolutionner quoi que ce soit.
Oui, il y a rien de fou.
Le design est fin, l'appareil photo est très classique, mais au final, vous avez de très bons produits qui n'ont qu'un seul défaut, c'est leur autonomie, hein, puisque malheureusement, les processeurs choisis par Samsung aujourd'hui manquent d'endurance. Et aussi, un des avantages des Galaxy...
C'est les fameux processeurs Exynos.
C'est ça.
Qui sont les processeurs maison de Samsung.
Fabriqués par Samsung et qui a du mal. Ouais. Il n'est absolument pas au niveau de ses concurrents. En tout cas, ces Galaxy S20 et S20 Plus sont très bons. Donc, c'est des produits qu'on peut vous recommander.
D'accord.
Avec une mention justement sur la 5G dont on parlait tout à l'heure, c'est le seul produit du marché proposé à la fois en version 5G et en version 4G pour ceux qui n'en veulent pas. Donc là, je vous recommande d'opter pour la version 4G, c'est 100 € d'économisé.
C'est toujours ça.
Et voilà, vous aurez le temps de vous préparer à la 5G dans le futur.
Là, ton troisième choix du haut de gamme.
C'est un autre produit lancé cette année, c'est le OnePlus 8 Pro. La marque OnePlus, je ne sais pas si on a besoin de la présenter, mais vous la connaissez sûrement comme celle qui s'est fait connaître à son lancement comme la tueuse d'iPhone. L'objectif de OnePlus était de faire des smartphones haut de gamme à prix cassé. Entre-temps, la doctrine a quelque peu évolué puisque OnePlus est vraiment monté en gamme. Et aujourd'hui, le téléphone coûte 899 €. Donc, c'est certes moins cher qu'un iPhone de dernière génération, mais c'est tout de même cher.
Ça déçoit beaucoup, d'ailleurs, les fans.
Ça déçoit les fans. Et c'est vrai qu'OnePlus, on se demande aujourd'hui encore à quoi va ressembler son futur. On n'est pas sûr qu'il y ait un futur pour cette marque. Mais en tout cas, dans tous les cas, ce produit... est très séduisante de par ses performances, de par son écran, par son autonomie qui est très bonne, mais aussi pour son expérience logicielle. Et c'est là aussi où OnePlus est toujours notre coup de cœur. C'est pour ça qu'on l'a choisi d'ailleurs dans ce classement. C'est que de tous les smartphones, le OnePlus 8 Pro est certainement celui qui est le plus fiable et le plus fluide à utiliser parce que le logiciel est parfait. Tout va vite, les animations sont rapides, il y a des mises à jour sur Android, c'est très rare, vous allez avoir 3 ou 4 ans de mises à jour. Donc c'est vraiment un très bon produit, et pour celui qui cherche une expérience simple et qui n'a pas envie d'investir dans un iPhone ou dans un autre produit, le OnePlus 8 Pro peut être un excellent choix.
On continue dans ta sélection.
Alors là, on reste sur l'haut de gamme. Mais
avec des prix cassés, c'est ça ?
Avec des prix un petit peu soit cassés, sur des produits qui peuvent être sortis en fait, l'année dernière.
D'accord. Donc c'est, on va dire que ce sont de bons rapports qualité-prix.
C'est
si
ça,
on n'a pas entre 800 et 1200 euros à sortir, un cran en dessous, on peut avoir quelque chose de bien.
Exactement. Le premier d'entre eux, c'est une nouvelle marque qui elle a un an, mais elle est encore inconnue, je pense, des consommateurs français. Elle s'appelle Realme. Et son produit, c'est le Realme X50 Pro 5G. Donc, il est 5G. Hein, c'est dit dans le nom, il y avait un indice. Mais l'idée de ce produit, c'est que pour moins de 600 euros, vous avez un smartphone haut de gamme. Donc, on se demande comment c'est possible. On pense que Realme ne fait pas énormément de marge dessus. Hein. Le but est vraiment de faire de la communication en ayant un produit qui ne coûte pas cher. Et ce Realme X50 Pro... c'est un smartphone haut de gamme similaire au Oppo Find X2 Pro avec de la recharge ultra rapide.
Et qui est deux fois moins cher ?
Deux fois moins cher, mais après, voilà, vous vous perdez en qualité. Il est beaucoup plus lourd. Il n'a pas ce dos en cuir, en céramique.
Il est
moins bon en photo. Il n'est pas étanche, en effet.
Donc, il y a certaines features qui ont été, enfin, certaines fonctions, options qui ont été enlevées.
Tout à fait.
Mais l'essentiel a été conservé.
L'essentiel est là. Vous avez l'écran, vous avez la puissance, vous avez la recharge, vous avez l'autonomie. Donc, du coup, ça reste un très bon produit, surtout à ce prix-là. Par contre, c'est sûr que si vous avez le budget... préférez le Oppo parce que la qualité est largement supérieure. Mais en tout cas, c'est vrai que ce Realme X50 Pro 5G est un produit très intéressant. Donc ça fait partie de ceux qu'on vous recommande. C'est surtout un produit pour les geeks, on va dire, parce que le problème de Realme, comme toute marque nouvelle, c'est que le service client n'est pas encore très développé et que vous risquez du coup, si vous avez un problème, de galérer. Alors que ça ne sera pas le cas chez un Oppo ou chez un Samsung qui, eux, sont bien implémentés.
Oui, sont déjà mieux structurés, on va dire. Est-ce que tu peux nous dresser le pédigré de Realme, qui est une marque qu'on connaît peu finalement, hein, qui est arrivée que très, très, très récemment. C'est une marque finalement qui gravite dans la galaxie Oppo, etc.
C'est ça, Realme, c'est la dernière née d'un groupe chinois qui s'appelle BBK Electronics, que vous ne connaissez certainement pas, puisque c'est un groupe qui n'aime pas se faire connaître. Mais ce groupe, il possède des marques que vous connaissez, qui sont Oppo, qui sont OnePlus, qui sont Vivo. Donc en fait, c'est vraiment un des géants chinois, sauf qu'au lieu d'utiliser sa propre identité, il lance plein de marques pour justement conquérir le marché de tous les côtés.
Avec des similitudes entre leurs téléphones, entre les
il y a des similitudes
parce
qu'ils partagent les usines notamment. Donc l'idée, par exemple, si un Realme peut faire un smartphone pas cher, c'est parce qu'il va réutiliser des composants laissés par Oppo. C'est comme ça aussi que le groupe BBK fonctionne, c'est justement dans ce partage entre les groupes, et ils peuvent le Realme utilise la même technologie de recharge ultra rapide que le Oppo, parce que voilà, ils ont pas des questions de brevets
entre eux.
C'est la même famille.
C'est vraiment des synergies entre toutes ces marques.
Realme, c'est la marque la moins chère du groupe BBK Electronics. C'est son objectif du coup avec cette marque, c'est de justement s'attaquer à des Samsung là où ils sont le plus puissants, c'est-à-dire sur l'entrée et le milieu de gamme.
Ouais, parce que donc pour 600 euros, qu'est-ce qu'on a chez Samsung ?
Chez Samsung, justement, c'est un produit que j'avais sélectionné. Il est un peu moins de 600 euros, mais c'est le Galaxy A71 qui est autour de 400-500 euros, qui est un smartphone milieu de gamme et qui, pour le coup, séduit par son autonomie et par son magnifique écran OLED, mais qui, sur le reste, ne séduit pas énormément, puisqu'on se retrouve avec des performances largement en dessous de la concurrence, avec un appareil photo qui, sincèrement, n'a rien d'exceptionnel. Et justement, c'est là où les Chinois sont très forts, c'est qu'ils sortent des téléphones qui n'ont pas ces défauts-là à un prix souvent inférieur. Mais là, le Galaxy A71, disons que c'est ce que je disais tout à l'heure sur le service client, il va rassurer les personnes qui n'ont pas de grandes attentes.
Et puis il y a des gens qui veulent un Samsung.
Ils veulent un Apple. Disons que celui-là, c'est pour ça que j'ai choisi, c'est que si vous avez un petit budget de 400 euros environ, 400-500 euros, et que vous voulez juste un produit fiable, c'est-à-dire qu'il ne va pas se casser au bout d'un an, s'il y a un problème, vous avez un service client qui est là. C'est un excellent choix et son autonomie est vraiment, vraiment colossale.
Oui, puis il est plutôt, enfin, au niveau design, ça va.
Ah, il est très beau.
On n'a pas honte à le sortir.
Vous savez, Samsung, c'est le plus grand fabricant d'écrans de smartphones au monde. Et sur ses produits, il fait des très bons choix.
On n'a pas encore parlé de Huawei, Nicolas. On va en parler dans un instant parce que, on le sait, le P40, on ne l'a même pas évoqué. Il n'est même pas dans ta sélection.
Non.
Tu vas nous expliquer pourquoi dans un instant. En revanche, dans les bons rapports qualité-prix, il y a un vieux de la vieille, si je puis dire, un téléphone qui est sorti il y a un an.
C'est ça, tu as raison de le dire. Le P40 n'est pas dans ma sélection. C'est un choix. parce qu'aujourd'hui, je ne le recommanderais à personne d'acheter un smartphone sans application Google. Peut-être dans un an, on pourra le faire, parce que Huawei aura développé son écosystème, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. En revanche, le Huawei P30 Pro, qui est le modèle sorti l'année dernière, lui, c'est vraiment une de nos meilleures recommandations de ce top. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est là où on voit en fait que la 5G n'a pas tellement d'impact sur le choix des consommateurs. C'est que peut-être que c'est le meilleur rapport qualité-prix du moment, c'est ce P30 Pro. Vous le trouvez aux alentours des 600 euros aujourd'hui, et c'est un téléphone haut de gamme, avec un excellent appareil photo, avec un zoom optique x5, zoom hybride x10, mais d'une qualité juste hallucinante par rapport à la concurrente. Un excellent écran.
Meilleur que le Oppo, par exemple, où on
ça se joue. Je pense que Oppo a réussi à rattraper son retard. Je ne sais pas comment ils ont fait, d'ailleurs, parce que ça allait assez vite. Mais Oppo et Huawei sont très bons, en tout cas, sur le zoom. Mais c'est vrai que peut-être que le P30 Pro sera meilleur la nuit. Donc, dans tous les cas, c'est un très bon produit. Et donc, ce téléphone, aujourd'hui, ça sera pour... ce moment précis et les prochains mois, le seul Huawei qu'on vous recommandera. ce qui me fait un peu mal au cœur parce que c'est une super marque et j'adorais pouvoir en parler plus souvent. Et voilà, ils sont très forts en matériel et c'est dommage justement de s'en priver. Mais ce P30 Pro est un très bon choix. Et donc, si vous cherchez un smartphone haut de gamme à prix cassé, il n'y a pas que les Realme ou les autres produits de ce genre. Vous avez aussi le Huawei P30 Pro qui, pour le coup, vaut le coup.
C'est-à-dire que voilà, si on a un budget de 600 euros, qu'on hésite entre le Realme et le P30 Pro, ce qui serait légitime, hein, parce qu'on se dit, tiens, on va peut-être avoir la puissance brute avec le Realme, mais si on est un fan de photos, vaut mieux se tourner vers le P30 Pro sans problème.
Le P30 Pro est un très bon choix. Il n'y aura pas de 5G, mais comme on vous a dit en début d'émission, ce n'est pas nécessaire.
Ouais, c'est clair. C'est un téléphone qui a un peu plus d'un an, hein, mais qui reste toujours... avec des performances actuelles, on va dire, haut de gamme. Voilà.
Oui.
Et en plus, il sort avec une nouvelle couleur et avec une mémoire un peu augmentée, c'est ça hein.
C'est les subterfuges de Huawei pour faire croire que
et pour allonger la durée de ce téléphone.
Tout à fait, c'est qu'au lieu de laisser le téléphone au rayon des anciens produits, ils ont relancé le P30 Pro sous le nom de Huawei P30 Pro New Edition, vous voyez. En réalité, la différence, c'est qu'il y a une nouvelle couleur et qu'il y a plus de stockage qu'avant, mais c'est le même. Mais en tout cas, l'idée étant d'avoir un nouveau produit étiqueté 2020 dans ses rayons, et c'est un très bon produit qu'on vous recommande.
Oui. Le P40 Pro, tu disais que donc tu ne le recommandais pas. Juste un mot sur le gros problème de ce téléphone, c'est qu'on n'a aucune application Google préinstallée. Et c'est pas prêt de s'arranger, puisqu'on sait que évidemment c'est la guerre entre les US et la Chine. On vous en a parlé évidemment très très souvent. Donc voilà, on se retrouve avec un téléphone qui est une bête de course. Mais
qui pourrait être le meilleur, mais qui ne peut pas l'être parce que...
On n'a pas les applications qu'on utilise au quotidien.
Disons que le geek ultime s'en sortira, mais le conseiller à vos parents ou à quelqu'un qui s'y connaît juste...
Ou même quelqu'un qui n'est pas geek, mais qui veut un bon téléphone...
Oui, c'est compliqué. Si vous allez vouloir une mise à jour de Facebook, au lieu d'aller dans une application et faire mettre à jour, vous allez devoir
télécharger
aller sur un site, télécharger le fichier, le réinstaller, parfois supprimer l'ancien. Donc c'est compliqué.
Ouais, c'est compliqué, on laisse tomber. Alors pour tous ceux qui ont un budget encore limité, tu nous parlais tout à l'heure du Samsung, il y a d'autres
deux choix qu'on va englober ensemble. C'est la marque chinoise Xiaomi qui pour le coup n'a pas fait de bons smartphones haut de gamme cette année. C'est peut-être une de nos plus grosses déceptions, c'est que les Mi 10 et Mi 10 Pro n'ont pas été à la hauteur de nos espérances. Mais en revanche, sur l'entrée de gamme, Xiaomi est toujours le roi. Avec deux produits. Le premier, c'est le Redmi Note 9 Pro, qui a été lancé il y a quelques semaines maintenant. Ça coûte 250 euros et c'est un smartphone d'entrée de gamme qui, franchement, bat des smartphones à 400 euros.
C'est-à-dire si on a 250 euros, on ferme les yeux, on ne réfléchit pas.
Aucun doute, vous allez sur le Redmi Note 9 Pro, c'est un super produit.
Le Redmi Note 9 Pro.
C'est ça, qui s'en sort très bien en photo. Bon, voilà, ce n'est pas non plus une qualité digne du haut de gamme, mais c'est déjà pas mal. Qui a une excellente autonomie, qui a un bel écran, qui est plutôt performant et tout est assez fluide sur ce téléphone. Donc le Redmi Note 9 Pro, c'est vraiment un coup de cœur.
Si tu avais 250 euros, pas plus.
C'est vraiment celui que je recommanderais à toutes les personnes qui ont un petit budget. Je dirais même si vous n'avez que 200 euros, essayez de voir si vous pouvez économiser ces 50 euros ou essayez de trouver une bonne affaire parce que ça sera vraiment le meilleur produit.
C'est le premier smartphone sérieux, on va dire.
C'est ça, il y a vraiment une marge entre les produits à 200 euros et celui-là, j'ai tapé le micro, et celui-là à 250 euros. Mais du coup, voilà, c'est un super produit, le Redmi Note 9 Pro. Et pour revenir à ceux qui ont moins de 200 euros, aux alentours des 170 euros pour le coup, il y a le Redmi Note 8T. Pourquoi pas le Redmi Note 9? Parce que le Redmi Note 9 n'est pas bon. Donc si vous m'écoutez, n'achetez pas le Redmi Note 9, ne recommandez pas à vos proches le Redmi Note 9. La raison est assez simple, Xiaomi a fait un mauvais choix de processeur. Ils ont choisi d'aller sur des puces qui sont des médiathèques et qui ne sont pas du tout optimisées au monde moderne, aux applications Android modernes. Vous avez des ralentissements. Par exemple, j'ai voulu, pour vous raconter ma vie perso, je suis sorti du cinéma et j'ai voulu allumer le téléphone qui était éteint dans mon sac. Il m'a fallu attendre 2 minutes avant qu'il démarre et j'ai voulu lancer l'appareil photo, il ne voulait pas se lancer. Ça n'arriverait pas sur un Redmi Note 8T de l'année dernière ou un Redmi Note 9 Pro.
Qui lui a un processeur Qualcomm.
C'est ça. Donc le Redmi Note 8T de l'année dernière, vous le trouvez encore sur le marché autour des 170€, qui a un processeur Qualcomm, qui a une excellente autonomie, qui a le même écran que le Redmi Note 9. Donc c'est vraiment le produit qu'on va vous recommander sur l'entrée de gamme.
Voilà, de 170 à plus de 1200€.
On a une importante sélection de smartphones.
Et bien voilà, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur. Merci mille fois Nicolas.
Merci.
C'était évidemment hyper intéressant. Nicolas Lelouch, que vous pouvez suivre évidemment sur zeronet.com avec tous ces tests de smartphones tout au long de l'année. Et bien voilà, ce de quoi je me mêle est terminé. Merci d'avoir été là, merci de nous avoir suivis, à la fois la radio sur RMC le dimanche matin, mais aussi en vidéo sur YouTube, sur zeronettv.com et sur vos box aussi, Box SFR, Orange, Free et Fransat. On sera là la semaine prochaine, portez-vous bien et surtout encore une fois, profitez bien de vos vacances si vous avez la chance de pouvoir y être. À très vite.
De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.